Traité de la vie élégante par Honoré de Balzac. Collection électronique de la médiathèque André Malraux de Lisieux. Texte établi sur l'exemplaire d'une collection particulière de l'ouvrage Les Parisiens comme ils sont, 1830-1846, dans l'édition donnée par André Billy à Genève, chez la Palatine, en 1947. Note de l'éditeur. Le traité de la vie élégante apparu pour la première fois en feuilleton dans La Mode, des 2, 9, 16, 23 octobre et 6 novembre 1830. Cet opuscule brillant, spirituel, pailleté de vues profondes, de saillies originales et philosophiques, complète avec bonheur un volume consacré au Paris de Balzac, vu par Balzac lui-même. Nous avons seulement retranché de ce texte, laissé d'ailleurs inachevé par l'auteur, le chapitre un peu diffus, où Balzac relate le récit d'une prétendue conversation qu'il aurait eue à Boulogne avec Brummel et Girardin, et une digression de 3 pages appuyée d'une longue note dans le chapitre 2. Ces 2 coupures, les lecteurs qui pourront se reporter à l'édition originale en jugeront, n'altèrent en rien le caractère de ce petit ouvrage, insuffisamment répandu et qui, par certains côtés, mérite de devenir classique et de trouver sa place dans une collection comme celle-ci, destinée au grand public. Les études et chroniques publiées dans le présent volume sous le titre général « Les Parisiens comme ils sont » sont reproduites in extenso. Traité de la vie élégante, entre parenthèses, La Mode, 2, 9, 16, 23 octobre, 6 novembre 1830, par Honoré de Balzac. Chapitre 1er, Prolégomène. Mens agitae matent, Virgile. L'esprit d'un homme se devine à la manière dont il porte sa canne. Traduction fashionable. La civilisation a échelonné les hommes sur 3 grandes lignes. Il nous aurait été facile de colorier nos catégories à la manière de M. Charles Dupin. Mais, comme le charlatanisme serait un contresens dans un ouvrage de philosophie chrétienne, nous nous dispenserons de mêler la peinture au X de l'algèbre et nous tâcherons, en professant les doctrines les plus secrètes de la vie élégante, d'être compris, même de nos antagonistes, les gens en bottes à revers. Or, les 3 classes d'êtres créés par les mœurs modernes sont l'homme qui travaille, l'homme qui pense, l'homme qui ne fait rien. De là, 3 formules d'existence assez complètes pour exprimer tous les genres de vie. Depuis le roman poétique et vagabond du bohème, jusqu'à l'histoire monotone et somnifère des rois constitutionnels. La vie occupée, la vie d'artiste, la vie élégante. De la vie occupée. Le thème de la vie occupée n'a pas de variante. En faisant œuvre de ses 10 doigts, l'homme abdique toute une destinée, il devient un moyen, et, malgré toute notre philanthropie, les résultats obtiennent seuls notre admiration. Partout l'homme va se pâmant devant quelques tas de pierres, et, s'il se souvient de ceux qui les ont amoncelés, c'est pour les accabler de sa pitié. Si l'architecte lui apparaît encore comme une grande pensée, ces ouvriers ne sont plus que des espèces de treuils et restent confondus avec les brouettes, les pelles et les pioches. Est-ce une injustice ? Non. Semblables aux machines à vapeur, les hommes enrégimentés par le travail se produisent tous sous la même forme et n'ont rien d'individuel. L'homme instrument est une sorte de zéro social, dont le plus grand nombre possible ne composera jamais une somme, s'il n'est précédé par quelques chiffres. Un laboureur, un maçon, un soldat sont les fragments uniformes d'une même masse, les segments d'un même cercle, le même outil dont le manche est différent. Ils se couchent et se lèvent avec le soleil. Aux uns, le chant du coq, à l'autre, la diane. À celui-ci, une culotte de peau, deux aunes de drap bleu et des bottes. À ceux-là, les premiers haillons trouvés. À tous, les plus grossiers aliments, battre du plâtre ou battre des hommes. Récolter des haricots ou des coups de sabre. Tel est, en chaque saison, le texte de leurs efforts. Le travail semble être pour eux une énigme, dont ils cherchent le mot jusqu'à leur dernier jour. Assez souvent, le triste pensum de leur existence est récompensé par l'acquisition d'un petit banc de bois où ils s'asseyent à la porte d'une chaumière, sous un sureau poudreux, sans craindre de s'entendre dire par un laquais « Allez-vous-en, bonhomme, nous ne donnons aux pauvres que le lundi ». Pour tous ces malheureux, la vie est résolue par du pain dans la huche et l'élégance par un bahut où il y a des hardes. Le petit détaillant, le sous-lieutenant, le commis-rédacteur sont des types moins dégradés de la vie occupée, mais leur existence est encore marquée au coin de la vulgarité. C'est toujours du travail et toujours le treuil. Seulement le mécanisme en est un peu plus compliqué et l'intelligence s'y engraine avec parcimonie. Loin d'être un artiste, le tailleur se dessine toujours, dans la pensée de ces gens-là, sous la forme d'une impitoyable facture. Ils abusent de l'institution des faux-cols, se reprochent une fantaisie comme un vol fait à leurs créanciers. Et pour eux, une voiture est un fiacre dans les circonstances ordinaires, une remise les jours d'enterrement ou de mariage. S'ils ne thésaurisent pas comme les manœuvriers, afin d'assurer à leur vieillesse le vivre et le couvert, l'espérance de leur vie d'abeille ne va guère au-delà. Car c'est la possession d'une chambre bien froide, au 4e, rue Boucherat, puis une capote et des gants de percale écrue pour la femme, un chapeau gris et une demi-tasse de café pour le mari, l'éducation de Saint-Denis ou une demi-bourse pour les enfants, du bouilli persillé deux fois la semaine pour tous. Ni tout à fait zéro, ni tout à fait chiffre, ces créatures-là sont peut-être des décimales. Dans cette cité dolente, la vie est résolue par une pension ou quelques rentes sur le grand livre, et l'élégance par des draperies à franges, un lit à bateau et des flambeaux sous verre. Si nous montons encore quelques bâtons de l'échelle sociale, sur laquelle les gens occupés grimpent et se balancent comme des mousses dans les cordages d'un grand bâtiment, nous trouvons le médecin, le curé, l'avocat, le notaire, le petit magistrat, le gros négociant, le hobereau, le bureaucrate, l'officier supérieur, etc. Ces personnages sont des appareils merveilleusement perfectionnés, dont les pompes, les chaînes, les balanciers, dont tous les rouages, enfin, soigneusement polis, ajustés, huilés, accomplissent leur révolution sous d'honorables caparaçons brodés. Mais cette vie est toujours une vie de mouvement, où les pensées ne sont encore ni libres ni largement fécondes. Ces messieurs ont à faire journellement un certain nombre de tours inscrits sur des agendas. Ces petits livres remplacent les chiens de cour qui les harcelaient naguère au collège et leur remettent à toute heure en mémoire qu'ils sont les esclaves d'un être de raison mille fois plus capricieux, plus ingrat qu'un souverain. Quand ils arrivent à l'âge du repos, le sentiment de la fashion s'est oblitéré. Le temps de l'élégance a fui sans retour. Aussi la voiture qui les promène est-elle à marchepied saillant à plusieurs fins ou décrépite comme celle du célèbre portal. Chez eux, le préjugé du cachemire vit encore. Leurs femmes portent des rivières et des girandoles. Leur luxe est toujours une épargne. Dans leur maison, tout est cossu, et vous lisez au-dessus de la loge « Parlez aux Suisses ». Si, dans la somme sociale, ils comptent comme chiffres, ce sont des unités. Pour les parvenus de cette classe, la vie est résolue par le titre de baron et l'élégance par un grand chasseur bien emplumé ou par une loge à Feydeau. Là cesse la vie occupée. Le haut fonctionnaire, le prélat, le général, le grand propriétaire, le ministre, le valet et les princes sont dans la catégorie des oisifs et appartiennent à la vie élégante. Après avoir achevé cette triste autopsie du corps social, un philosophe éprouve tant de dégoût pour les préjugés qui amènent les hommes à passer les uns près des autres en s'évitant comme des couleuvres, qu'il a besoin de se dire « Je ne construis pas à plaisir une nation, je l'accepte toute faite. » Cet aperçu de la société prise en masse doit aider à concevoir nos premiers aphorismes que nous formulons ainsi. 1. Le but de la vie civilisée ou sauvage est le repos. 2. Le repos absolu produit le spleen. 3. La vie élégante est dans une large acception du terme l'art d'animer le repos. 4. L'homme habitué au travail ne peut comprendre la vie élégante. 5. Corollaire, pour être fashionable, il faut jouir du repos sans avoir passé par le travail. Autrement, gagner un quaterne, être fils de millionnaire, prince, sinécuriste ou cumulard. De la vie d'artiste. L'artiste est une exception. Son oisiveté est un travail et son travail un repos. Il est élégant et négligé tour à tour. Il revêt à son gré la blouse du laboureur et décide du frac porté par l'homme à la mode. Il ne subit pas de loi, il les impose. Qu'il s'occupe à ne rien faire ou médite un chef-d'œuvre, sans paraître occupé. Qu'il conduise un cheval avec un mors de bois ou mène à grande guide les quatre chevaux d'un britchka. Qu'il n'ait pas 25 centimes à lui ou jette de l'or à pleine main. Il est toujours l'expression d'une grande pensée et domine la société. Quand M. Peel entra chez M. le vicomte de Chateaubriand, il se trouva dans un cabinet dont tous les meubles étaient en bois de chêne. Le ministre, 30 fois millionnaire, vit tout à coup les ameublements d'or ou d'argent massif qui encombrent l'Angleterre, écrasés par cette simplicité. L'artiste est toujours grand. Il a une élégance et une vie à lui parce que, chez lui, tout reflète son intelligence et sa gloire. Autant d'artistes, autant de vies caractérisées par des idées neuves. Chez eux, la fashion doit être sans force. Ces êtres indomptés façonnent tout à leur guise. S'ils s'emparent d'un magot, c'est pour le transfigurer. De cette doctrine se déduit un aphorisme européen. 6. Un artiste vit comme il veut ou comme il peut. De la vie élégante. Si nous omettions de définir ici la vie élégante, ce traité serait infirme. un traité sans définition est comme un colonel amputé des deux jambes. Il ne peut plus guère aller que qu'à un quart. Définir, c'est abréger. Abrégeons donc. Définition. La vie élégante est la perfection de la vie extérieure et matérielle. Ou bien, l'art de dépenser ses revenus en homme d'esprit. Ou encore, la science qui nous apprend à ne rien faire comme les autres, en paraissant faire tout comme eux. Mais mieux peut-être, le développement de la grâce et du goût dans tout ce qui nous est propre et nous entoure. Ou plus logiquement, savoir se faire honneur de sa fortune. Selon notre honorable ami E. de G., ce serait la noblesse transportée dans les choses. D'après T.P. Smith, la vie élégante est le principe fécondant de l'industrie. Suivant M. Jacotot, un traité sur la vie élégante est inutile, attendu qu'il se trouve tout entier dans Télémaque, voir la constitution de Salente. À entendre M. Cousin, ce serait, dans un ordre de pensée plus élevé, l'exercice de la raison, nécessairement accompagné de celui des sens, de l'imagination et du cœur, qui, se mêlant aux institutions primitives, aux illuminations immédiates de l'animalisme, va atteignant la vie de ses couleurs. Voyez page 44 du cours de l'histoire de la philosophie, si le mot « vie élégante » n'est pas véritablement celui de ce rébus. Dans la doctrine de Saint-Simon, la vie élégante serait la plus grande maladie dont une société puisse être affligée. En partant de ce principe, une grande fortune est un vol. Suivant Chodruc, elle est un tissu de frivolité et de billevesée. La vie élégante comporte bien toutes ces définitions subalternes, périphrase de notre aphorisme 3. Mais elle renferme, selon nous, des questions plus importantes encore, et pour rester fidèles à notre système d'abréviation, nous allons essayer de les développer. Un peuple de riches est un rêve politique impossible à réaliser. Une nation se compose nécessairement de gens qui produisent et de gens qui consomment. Comment celui qui sème, plante, arrose et récolte est-il précisément celui qui mange le moins? Ce résultat est un mystère assez facile à dévoiler, mais que bien des gens se plaisent à considérer comme une grande pensée providentielle. Nous en donnerons peut-être l'explication plus tard, en arrivant au terme de la voie suivie par l'humanité. Pour le moment, au risque d'être accusé d'aristocratie, nous dirons franchement qu'un homme placé au dernier rang de la société ne doit pas plus demander compte à Dieu de sa destinée qu'une huître de la sienne. Cette remarque, tout à la fois philosophique et chrétienne, tranchera sans doute la question aux yeux des gens qui méditent quelque peu les chartes constitutionnelles et comme nous ne parlons pas à d'autres, nous poursuivrons. Depuis que les sociétés existent, un gouvernement a donc toujours été nécessairement un contrat d'assurance, conclu entre les riches contre les pauvres. La lutte intestine produite par ce prétendu partage à la Montgomery allume chez les hommes civilisés une passion générale pour la fortune, expression qui prototype toutes les ambitions particulières, car du désir de ne pas appartenir à la classe souffrante et vexée dérive la noblesse, l'aristocratie, les distinctions, les courtisans, les courtisanes, etc. Mais cette espèce de fièvre qui porte l'homme à voir partout des mâts de cocagne et à s'affliger de ne s'y être jugé qu'au quart, au tiers ou à moitié, a forcément développé l'amour-propre outre mesure et engendré la vanité. Or, comme la vanité n'est que l'art de s'endimancher tous les jours, chaque homme a senti la nécessité d'avoir, comme un échantillon de sa puissance, un signe chargé d'instruire les passants de la place où ils perchent sur le grand mât de Cocagne, au sommet duquel les rois font leurs exercices. Et c'est ainsi que les armoiries, les livrées, les chaperons, les cheveux longs, les girouettes, les talons rouges, les mitres, les colombiers, le carreau à l'église et l'encens par le nez, les particules, les rubans, les diadèmes, les mouches, le rouge, les couronnes, les souliers à la poulaine, les mortiers, les simarres, le menu vert, l'écarlate, les éperons, etc., etc., étaient successivement devenus des signes matériels du plus ou moins de repos qu'un homme pouvait prendre, du plus ou moins de fantaisie qu'il avait le droit de satisfaire, du plus ou moins d'homme, d'argent, de pensée, de labeur, qu'il lui était possible de gaspiller. Alors un passant distinguait, rien qu'à le voir, un oisif d'un travailleur, un chiffre d'un zéro. Tout à coup, la Révolution, ayant pris d'une main puissante toute cette garde-robe inventée par 14 siècles, et l'ayant réduite en papier-monnaie, amena follement un des plus grands malheurs qui puissent affliger une nation. Les gens occupés se lassèrent de travailler tout seuls. Ils se mirent en tête de partager la peine et le profit par portions égales avec de malheureux riches qui ne savaient rien faire, sinon se gaudir en leur oisiveté. Le monde entier, spectateur de cette lutte, a vu ceux-là même qui s'étaient le plus affolés de ce système le proscrire, le déclarer subversif, dangereux, incommode et absurde, sitôt que, de travailleurs, ils se furent métamorphosés en oisifs. Aussi, de ce moment, la société se reconstitua, se rebaronifia, se recontifia, s'enrubanisa, et les plumes de coq furent chargées d'apprendre au pauvre peuple ce que les perles héraldiques lui disaient jadis. « Va des rétro, Satanas ! Arrière de nous, Pékin !» La France, pays éminemment philosophique, ayant expérimenté par cette dernière tentative l'utilité, la sécurité du vieux système d'après lequel se construisaient les nations, revient d'elle-même, grâce à quelques soldats, au principe en vertu duquel la Trinité a mis en ce bas monde des vallées et des montagnes, des chênes et des graminées. Et, en l'an de grâce 1804, comme en l'an 1520, il a été reconnu qu'il est infiniment agréable pour un homme ou une femme de se dire en regardant ses concitoyens « Je suis au-dessus d'eux, je les éclabousse, je les protège, je les gouverne. Et chacun voit clairement que je les gouverne, les protège et les éclabousse. » Car un homme qui éclabousse, protège ou gouverne les autres, parle, mange, marche, boit, dort, tousse, s'habille, s'amuse autrement que les gens éclaboussés, protégés et gouvernés. Et la vie élégante a surgi, et elle s'est élancée, toute brillante, toute neuve, toute vieille, toute jeune, toute fière, toute pimpante, toute approuvée, corrigée, augmentée et ressuscitée par ce monologue merveilleusement moral, religieux, monarchique, littéraire, constitutionnel, égoïste. J'éclabousse, je protège, je, etc. Car les principes d'après lesquels se conduisent et vivent les gens qui ont du talent, du pouvoir ou de l'argent ne ressembleront jamais à ceux de la vie vulgaire. Et personne ne veut être vulgaire. La vie élégante est donc essentiellement la science des manières. Maintenant, la question nous semble suffisamment abrégée et aussi subtilement posée que si Son Excellence le Comte Rayet s'était chargé de la proposer à la première chambre septennale. Mais à quelle gente commence la vie élégante? Et tous les oisifs sont-ils aptes en suivre les principes. Voici deux aphorismes qui doivent résoudre tous les doutes et servir de point de départ à nos observations fashionables. 7. Pour la vie élégante, il n'y a d'être complet que le centaure, l'homme en tilbury. 8. Il ne suffit pas d'être devenu ou de naître riche pour mener une vie élégante. Il faut en avoir le sentiment. « Ne fais pas le prince, » a dit avant nous Solon, « si tu n'as pas appris à l'être. »